Oui, bonjour, mon nom est Jacinthe Poisson. Je suis l'une des co-auteurs du rapport qui a récemment été publié par la Ligue des droits et libertés, qui s'intitule « Manifestation et répression, point saillant du bilan sur le droit de manifester au Québec ».
Bienvenue, Jacinthe. Donc, pour commencer, pouvez-vous nous parler un peu de ce rapport? Premièrement, que révèle ce rapport?
Ce rapport révèle qu'en fait, la répression du droit de manifester au Québec s'est accentuée depuis 2012. Donc, on était déjà inquiet, suite au mouvement étudiant de 2012, de constater que le droit de manifester était mis à mal. Et notre objectif était d'étudier et de constater si cette répression-là s'actuait dans la rue et de quelle façon. Alors, notre constat est que oui, la répression du droit de manifester, autant au niveau législatif, policier que judiciaire, se continue et s'accentue, en fait, pour s'attaquer aux groupes les plus contestataires et les plus marginaux à Montréal et à l'extérieur de Montréal, dans les autres villes du Québec.
Et est-ce que vous connaissez les chiffres, plus ou moins, qui révèlent la répression politique et policière à Montréal, qui se trouve dans ce rapport?
Oui. Alors, on a mené une étude très détaillée. On a fouillé l'actualité, on a posé des questions aux avocats, aux corps policiers, aux institutions et aux arrêtés, aussi aux groupes arrêtés qui se sont formés pour connaître l'étendue de cette répression-là. Et on a ressorti des chiffres qui sont très percutants et très intéressants. Si on commence par exemple par la répression policière, on a constaté que les arrestations massives, donc les arrestations où il y a des encerclements autour de groupes de manifestants et où chaque personne est systématiquement arrêtée, détenue suite à une détention souvent de plusieurs heures, ont été utilisées pour faire taire la contestation sociale. Notre chiffre, finalement, on a étudié que de 2011 à 2014, on a compté dans 185 manifestations, 185 événements, on a compté 5895 personnes qui ont été arrêtées dans le cadre d'arrestations massives. Et on a continué le décompte en 2015 pour constater que 1006 personnes de plus ont été arrêtées. Donc, on arrive à un chiffre incroyable depuis 2011. Et pour ce qui est, donc, on a également étudié l'utilisation des armes dangereuses, du profilage politique. Et en matière de profilage politique, on a également souligné des chiffres vraiment désastreux et percutants. Donc, pour nous, le profilage politique, c'est toute action qui est prise par les autorités contre un groupe pour des raisons de sécurité ou de maintien de l'ordre qui repose sur l'opinion politique, les convictions politiques ou les activités politiques d'une personne réelle ou présumée par la police et qui expose cette personne-là à un traitement différent. Donc, en prenant cette définition-là, on a constaté qu'en fait, les arrestations massives étaient un outil de profilage politique. On a constaté que c'était principalement les groupes étudiants anticapitalistes qui dénoncent la brutalité policière, écologistes, anticoloniaux, qui font l'objet d'arrestations massives, alors que les autres groupes sont épargnés par la police. Donc, on parle de 76% des arrestations massives qui ont visé des groupes étudiants, 11% pour des groupes anticapitalistes, 9% pour des groupes qui dénoncent la brutalité policière et 4% des groupes écologistes anticoloniales. Mais ce qu'on a remarqué finalement, c'est que la police, dans son discours, va dire que les arrestations ont lieu parce que les groupes ne divulguent pas l'itinéraire. Ce qu'on a conclu, c'est que ce lien est erroné. C'est pas le lien qui existe, c'est pas ça. C'est plutôt entre l'arrestation et la cause politique de la manifestation. Pour vous donner un bon exemple avec des chiffres, à Montréal, 2013-2014, il y a eu 116 manifestations qui n'ont pas donné leur itinéraire, qui n'ont pas du tout été réprimées ni importunées par la police, qui ont pu se dérouler normalement. Ils n'avaient pas donné leur itinéraire. Alors que de l'autre côté, 23 manifestations de groupes étudiants capitalistes contre la brutalité policière, eux, n'ont pas donné leur itinéraire et ont été réprimés. Donc, on voit vraiment que le lien il est entre la cause politique de la manifestation et les arrestations. Et bon, pour terminer, un autre chiffre percutant vraiment qu'on a découvert, c'est que à travers la contestation des constats d'infraction, on a étudié le règlement P6 qui a été utilisé depuis 2012 ou même avant 2012 également pour réprimer les manifestations. Les gens recevaient des tickets de plus de 600 $ pour avoir participé à une manif. Puis on a constaté que les tickets qui ont été donnés en 2012-2014 sous P6, 83% plus précisément d'entre eux, sont tombés. Donc, il y a eu des arrêts des procédures, des retraits. Et donc, 83 % de ces gens-là qui ont reçu des tickets P6 s'en sont sortis sans rien, mais ont dû traverser un processus judiciaire très lourd, décourageant. Ils n'ont pas pu manifester également, évidemment, parce que P6 a été utilisé pour mettre fin aux manifestations. Donc voilà, ce long rapport-là, cette longue étude nous a vraiment permis de fournir des chiffres qui montrent que le profilage politique existe, que la répression du droit de manifester au Québec est très inquiétante.
Oui, enfin, on a des faits qui montrent ça. Parce qu'habituellement, les gens disent qu'il y a beaucoup de répression policière, mais on n'a jamais eu des chiffres qui nous indiquaient ça, donc...
Voilà, notre objectif, c'est vraiment de s'adresser avec ce rapport-là à la population, aux militants, aux groupes qui vont dans la rue puis qui utilisent la manifestation comme un mode d'action collective, puis de leur dire, maintenant, vous pouvez avoir des chiffres, vous pouvez avoir un argumentaire pour convaincre les gens que c'est dramatique, puis qu'on doit agir, qu'on peut pas laisser ça continuer puis s'empirer comme c'est le cas présentement. Donc, on voulait vraiment s'adresser à la population parce qu'on est très inquiet de l'indifférence qui règne en ce moment, parce que une manifestation se fait arrêter, des arrestations massives, puis le lendemain, ben on en parle dans les médias comme si c'était normal. On se rend pas compte que c'est des droits fondamentaux, le droit de manifester qui est un droit constitutionnel, qui est réprimé, qui est bafoué. Donc pour nous, c'était vraiment d'alerter la population à ce sujet-là, puis de fournir des chiffres pour montrer que c'est super inquiétant.
Donc est-ce que ça visait vraiment à atteindre, donc à informer le public, ou avez-vous diffusé ce rapport aussi à la police ou bien même au gouvernement du Québec?
Oui, on a envoyé le rapport. En fait, toutes les instances possibles ont été averties de l'existence de ce rapport-là. Malheureusement, dans les jours suivants, autant la SPVM que le maire de Montréal ont refusé de commenter publiquement. Toutefois, en conseil de ville, le maire Couillard a été interrogé par un conseiller de Projet Montréal. La vidéo circule sur Facebook, puis est assez cocasse. Puis c'est fascinant d'entendre Madame Sanson, qui est une des conseillères qui porte ce dossier-là, dire qu'en fait la police de Montréal ne fait pas de profilage politique, elle fait de la sélection sur le type de manifestation qui va avoir lieu pour choisir leur mode d'action. Donc, pour moi, ça, c'est une admission claire que la police, que le maire et que la ville est consciente que la police choisit ses modes d'action, puis ses modes, est-ce qu'il va faire une arrestation massive ou pas, basé sur le profil politique des organisateurs puis la cause politique derrière la manifestation. Donc, ça a été vraiment la réaction politique qui nous a le plus inquiétés, mais le SPVM n'a pas réagi officiellement, on n'a pas eu d'autres réactions que celle-là.
Et ce rapport, est-ce que c'est pertinent seulement pour les manifestations politiques étudiantes ou politiques en général, ou bien ça rapport aussi au profilage racial?
Bien, justement, c'est une question intéressante parce que le profilage racial et le profilage social, donc des personnes souvent en situation d'itinérance à Montréal, est quelque chose qui est dénoncé depuis très longtemps, qui a été reconnu par la Commission des droits de la personne du Québec. Maintenant, on en est à justement faire des liens entre ces trois types de profilage-là, puis à se rendre compte que en plus du profilage racial, du profilage social qui existe, donc des personnes de minorités ethniques et des personnes itinérantes qui se font profiler par la police, bien maintenant, on se rend compte que les groupes contestataires, les groupes marginaux au niveau politique sont autant réprimés et profilés. Donc, l'objectif est justement de montrer le lien entre ces trois sortes de profilage-là puis de faire reconnaître le profilage politique. Récemment, il y a à peine 2 ou 3 semaines, il y a eu une plainte à la Commission des droits de la personne qui a été acceptée par la Commission, qui va être amenée devant le tribunal des droits de la personne. C'est une première dans l'histoire du Canada, à ma connaissance, qu'on va étudier le profilage politique au niveau judiciaire. Donc, ça s'en vient. On espère que notre rapport va contribuer à reconnaître ce phénomène-là.
Wow, définitivement. Qu'est-ce que vous espérez avec ce rapport sur l'existence d'un système de répression politique et policière au Québec? Est-ce que vous espérez que le public soit enfin plus informé sur ces chiffres, que les gens portent plus attention à ce phénomène?
Oui, j'espère sincèrement. J'espère que ce rapport-là va permettre aux gens de se rendre compte de l'état de la situation, mais va aussi rappeler puis raviver la flamme que les gens ont eu peut-être plus par le passé d'utiliser la rue comme un médium de mobilisation puis d'action politique. Donc, je veux surtout pas que ce rapport-là décourage les gens. Il faut continuer d'utiliser la manifestation comme un mode d'action politique, puis il faut continuer d'utiliser la rue à cette fin-là.
Comment est-ce que les lecteurs peuvent s'impliquer avec votre organisme ou même dans cette lutte contre l'état présent du droit de manifester au Québec?
Principalement, moi, je dirais que pour que ce droit reste vivant, il faut l'exercer. Donc, c'est pas nécessairement de s'impliquer avec la Ligue des droits et libertés nécessairement, bien qu'on est très ouvert à recevoir des nouveaux militants, mais c'est de s'impliquer dans les causes qui tiennent à cœur à tous et chacun et de continuer d'utiliser la manifestation puis d'aller dans la rue puis de participer aux manifestations. Parce que si on plie puis on a peur, on est découragé, on n'y va pas dans la rue, ben le gouvernement va avoir gagné puis la répression va avoir atteint son objectif. La peur va avoir pris le dessus sur la mobilisation puis c'est de ça qu'on a peur.
Y a-t-il autre chose que vous voudriez ajouter?
Je pense qu'on a fait le tour. Je voudrais, pour terminer, simplement souligner la mobilisation politique et judiciaire fabuleuse qui a été menée par les personnes qui ont été judiciarisées. Je pense que j'ai pas eu le temps de justement nommer ces chiffres-là. C'est important de dire qu'il y a une offensive impressionnante qui a été menée. On parle de 20 recours collectifs suite aux arrestations massives, dont 9 qui ont été autorisées. On parle de plus de 200 plaintes en déontologie. On parle de 3 plaintes à la Commission des droits de la personne. Donc, je voulais souligner aussi que la défense du droit de manifester passe par la mobilisation politique et judiciaire subséquente.
Ben parfait, merci beaucoup Jacinthe d'avoir pris le temps de faire cette entrevue avec nous et merci aussi d'avoir produit ce rapport vraiment bien recherché qui a enfin sorti des chiffres qui confirment vraiment l'existence d'un système de répression politique et policière au Québec et il est vraiment temps que cette banalisation de violation de droits cesse.
Merci.